Du tout. Pas du tout, c'est pas la même hypnose, c'est pas pour les mêmes gens, c'est pas les mêmes objectifs. Dans les deux cas, il y a une modification de l'état de conscience de la personne, mais c'est pas fait avec la même intention. Et un hypnotiseur de spectacle ne saurait pas soigner quelqu'un. C'est beaucoup plus compliqué de faire de l'hypnose médicale que de l'hypnose de spectacle.
Et alors, à cause de cette hypnose de spectacle, vous n'avez pas peur de souffrir d'un certain charlatanisme?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça fait 30 ans que je pratique l'hypnose. Hein. On s'est déjà rencontrés ici, d'ailleurs, quelques fois.
Avec Véronique, ouais.
Notamment,
et
ouais.
Dans les experts.
Il y a, je dirais, 20 ans, c'était un peu confus la différence entre des pratiques de spectacle, qui sont interdites dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Hein.
Pas en France,
mais dans beaucoup de pays, elles sont interdites. Et cette hypnose médicale, mais en fait, le public s'y retrouve très très bien. Et j'en veux pour preuve une conférence qu'on a eu l'occasion de donner à Saint-Malo il y a quelques semaines. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, de gens du public, quoi, des gens qui ne connaissaient pas au départ ce que c'était l'hypnose. On a eu à peu près trois quarts d'heure à une heure de questions. Il n'y a pas eu une seule question concernant cette hypnose de spectacle.
Il fallait venir ici.
Il
n'y a pas d'ambiguïté,
je pense, dans la
tête des gens. Oui, bien sûr.
Alors, vous le dites, ça a changé, l'image a changé depuis une vingtaine d'années.
Ouais.
Pourquoi cette image de l'hypnose a changé?
Elle a changé d'abord parce que le processus de développement de l'hypnose est durable. Je vous dis, moi j'ai commencé il y a 30 ans, hein, j'étais un des premiers en France. Et il y a eu depuis beaucoup de recherches, beaucoup de travaux, beaucoup de patients, beaucoup de praticiens, et puis beaucoup de satisfaction. Donc qui ont montré progressivement, je donne souvent l'image d'un arbre qui pousse, voilà, il pousse tranquillement.
On en est qu'au début, c'est ça ?
Il y a déjà quelques arbres maintenant, mais les forêts sont en train de s'installer. Mais ça s'est fait sans heurts, sans tranquillement, quoi. Et de manière très solide, très stable, avec des études scientifiques qui ont prouvé la validité à la fois de l'état hypnotique, mais aussi des résultats, des améliorations pour les patients. Là, on parlait du monde de la chirurgie, mais dans le monde de la psychologie, de la psychiatrie, c'est très probant également.
Alors l'hypnose, les médecins dont vous faites partie en parlent très bien.
Oui.
Les patients aussi, et on en a quelques-uns au standard de France Bleu Armorique.
Alors d'abord Sophie qui est avec nous au 02 99 67 35 deux fois depuis Saint-Malo. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez testé l'hypnose, qu'est-ce que ça a donné Sophie ?
Ça m'a évité une anesthésie générale.
Oui, pour quel type de problème si c'est pas indiscret ?
En chirurgie orthopédique.
Oui. Vous avez hésité avant de vous lancer ou pas ?
Ben en fait, on ne m'a pas trop demandé mon avis.
C'est assez curieux, ah oui.
Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste.
C'est que vous n'y étiez pas opposée alors, peut-être ?
Comment ?
C'est que vous n'y étiez pas opposée, Sophie ?
Non, je n'étais pas du tout opposée, parce que c'est vrai que j'étais par contre contre le fait que j'en avais marre des anesthésies.
D'accord. Et alors, au résultat, ça a donné quoi ?
Alors, au résultat, bah, je trouve ça très très bien, parce qu'effectivement, on n'a pas, pour une intervention qui devait être sous anesthésie générale, elle n'a nécessité qu'une anesthésie locale.
Oui.
Donc, c'est énorme au niveau impact post-trauma, enfin, post-op en tout cas. Enfin. Et par contre, donc, ce que je disais, je ne sais plus son prénom au standard.
Jessica,
oui.
Jessica, enfin. Et que ça demandait quand même de la concentration.
De votre part, voilà. C'est-à-dire
voilà.
Que, en fait, est-ce qu'on vous a demandé, comme la dame qu'on écoutait tout à l'heure, de vous projeter dans un endroit que vous aimiez, que vous appréciez ?
Tout à fait, ça s'est passé comme ça, ouais.
Eh ben écoutez, merci beaucoup de ce témoignage, Sophie. On attend les vôtres, on va accueillir Thierry et Gilles.
Il y a aussi une chose, hein, c'est que tous les médecins ne sont pas prêt à accepter ça, même si le patient l'est.
Ah, bah écoutez, on va poser la question à notre invité, voilà. Au docteur Claude Viro. Merci de ce témoignage, Sophie. Le cas de Sophie, l'hypnose qui intervient en remplacement, alors j'ai envie de dire pas en remplacement total de l'anesthésie, hein, parce qu'il y a toujours une anesthésie. C'est un complément à l'anesthésie, par exemple, l'hypnose ?
Oui, c'est un complément à l'anesthésie. Il n'y a pas que l'hypnose et l'anesthésie locale, il y a aussi la pratique de l'anesthésiste, il y a aussi le personnel autour, le chirurgien, c'est un ensemble, c'est toute une équipe qui travaille. Hein. Et l'hypnose devient un élément important dans cet ensemble-là.
Et la question que posait Sophie, est-ce que les chirurgiens, petit à petit, s'y font à cette hypnose qui intervient dans les blocs opératoires ?
Les chirurgiens s'y font petit à petit. Pour eux, l'objectif d'une chirurgie, c'est de traiter le patient. finalement, ce n'est pas tellement leur problème quelle technique d'anesthésie va être utilisée. Si avec l'hypnose, ça marche bien, ils sont très contents. Si le patient récupère bien, s'il évolue mieux qu'avant, s'il cicatrise bien, ils sont très contents. Mais ça change un peu leur pratique. Parce que lorsque le patient est en état d'éveil, puisque l'hypnose est un état d'éveil, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser que les gens dorment, pas du tout, ils sont éveillés. Donc il faut faire beaucoup plus attention au patient. Il faut être beaucoup plus doux, il faut être beaucoup plus tranquille, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut que l'équipe soit un peu plus cohérente, un peu plus harmonieuse.
Il faut changer un petit peu son comportement alors, dans le bloc opératoire.
Ouais.
Vous restez avec nous, évidemment, Claude Viraud, un médecin psychiatre à Rennes, directeur de cet institut de formation et de recherche en hypnose. Vous êtes nombreux à vouloir témoigner ce matin.
Oui, alors Sylvie est également avec nous. Pour l'instant, beaucoup de témoignages féminins. Sylvie, vous êtes au Grand Fougeret. Vous avez testé 3 fois l'hypnose. Ça a marché les 2 premières fois et la 3e fois, ça a été un échec. Comment l'expliquez-vous, si vous avez une explication?
J'y allais d'abord pour des douleurs chroniques. La première fois, j'étais assez sceptique et ça a super bien marché. C'est-à-dire que je suis ressortie du cabinet, j'avais plus aucune douleur. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais peut-être duré 5 minutes, 10 minutes, mais oui, voilà, pendant un laps de temps, j'avais plus rien. Et la 3e fois, l'association de la musique et de la couleur, ça me convenait pas. Et la musique qu'on avait dans le cabinet me stressait et m'augmentait la douleur. Et je me suis sentie prisonnière, si vous voulez. J'ai pas pu, je pouvais pas dire que j'étais très mal, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, mais je pouvais rien dire comme prisonnier de mon corps, quoi. J'avais mon esprit qui était séparé de mon corps, et mon esprit, ça n'allait pas du tout. Et du coup, je me suis sentie très très mal.
Bon, on va avoir effectivement avec notre invité aujourd'hui, est-ce que comme pour une anesthésie générale, on peut avoir de mauvais réveils avec l'hypnose?
Je ne crois pas qu'elle parle de mauvais réveil, si j'ai bien compris. C'est plutôt une mauvaise expérience pendant la transe hypnotique. Ce sont des choses qui peuvent arriver, hein, comme dans tout acte médical, il peut y avoir des moments compliqués. Peut-être que l'indication n'était pas parfaitement posée dans ce moment-là, mais comme il y avait eu 2 succès précédemment, l'idée d'utiliser l'hypnose est venue naturellement, et peut-être que ce n'était pas le meilleur outil à ce moment-là.
Sur la page Facebook de France Bleu Armorique, on a Brigitte qui nous dit aussi que ça n'a pas fonctionné avec elle. On lui a proposé la kiné sous hypnose. Elle dit « je n'étais peut-être pas assez réceptive ». Pourquoi est-ce que ça marche avec certains patients et pas avec d'autres ?
Il y a plusieurs ordres de réponses. Hein.
Je pense que si vous aviez la réponse, ça marcherait avec tout le monde.
Ouais, c'est ça, oui. Il y a plusieurs ordres de réponses. On pense souvent à la réceptivité du patient, mais il faut voir aussi la compétence du thérapeute. Et la compétence du thérapeute, c'est quelque chose qui s'acquiert de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Par exemple, dans le monde de la kinésithérapie, l'utilisation de l'hypnose est très récente, puisque nous sommes à Rennes, le premier institut à former des kinés. Ça fait que 3 ans ou 4 ans, donc c'est très récent comme pratique. Donc il y a beaucoup, beaucoup de patients avec qui ça se passe bien, et puis de temps en temps, avec un certain patient, c'est plus complexe. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, au bout de 2 ou 3 ans de mon exercice, je pouvais faire de l'hypnose à peu près avec la moitié de mes patients. Une autre moitié, je ne savais pas faire. Et ça s'est développé petit à petit, parce qu'il faut s'adapter à chaque patient, à chaque moment, à chaque instant, à chaque pathologie, et ça demande une énorme souplesse du thérapeute, et ça s'acquiert.
On parle parfois des esprits très cartésiens qui seraient un peu réfractaires à l'hypnose, et non ?
Eh bien, là encore, c'est une question de compétence du thérapeute. C'est vrai que quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, je n'aimais pas trop les gens qui posaient beaucoup de questions, qui étaient un peu rigides, ou qui étaient un peu
genre journaliste,
cartésiens.
Quoi.
Ah non, les journalistes, ça va. Mais en fait, c'est une question d'expérience. Avec de l'expérience, tous les patients que je peux recevoir et qui peuvent avoir besoin d'hypnose peuvent vivre une transe hypnotique assez facilement. C'est un peu comme tous les métiers, quoi. On en apprend tous les jours et on s'adapte de plus en plus facilement à chacun de nos interlocuteurs, comme vous faites, vous, les journalistes aussi.
On essaie.
Hein? L'hypnose. Est-ce que vous êtes prêt à essayer? Est-ce que vous avez testé? On attend encore vos témoignages pendant quelques minutes au 02 99 67 35 35.
Thierry, merci d'être avec nous ce matin. En ligne depuis Verne-sur-Seiche, votre maman a subi l'ablation de l'utérus sous hypnose.
Oui.
Et ça a été une des premières patientes, c'est ça?
Je tenais à témoigner, oui. Parce que ce qui m'énerve, c'est... bon, c'est vrai que vous abordez des sujets qui sont passionnants. Par contre, c'est vrai que l'hypnose se doit se faire sur le plan purement médical. parce que c'est vrai que quand on entend des gens qui sont réfractaires à ça, qui bon, c'est vrai qu'on a peur de ça, c'est il y a des charlatans comme partout. Par contre, moi, je tenais à témoigner ce matin parce que c'est vrai que quand vous subissez une grosse intervention chirurgicale, hein, que bah, comme le médecin est arrivé à comprendre, donc c'est ma mère, patiente diabétique, 60 ans, avec 5 ALD et une obésité morbide. Donc c'est vrai que à 60 ans, maman a découvert qu'elle a eu un cancer. Donc on lui a fait l'ablation de l'utérus à l'hôpital de Saint-Grégoire. Donc elle a quand même été trois fois convoquée à Saint-Grégoire pour la chirurgie, pour voir les examens et tout. Et c'est vrai que maman a été opérée à Saint-Grégoire et c'était les premières fois que l'hôpital faisait l'hypnose.
Ce type d'opération sous hypnose.
Sous hypnose, donc.
Voilà. Et ça a marché, donc, Thierry?
Elle est restée 8 heures au bloc opératoire, donc sous hypnose. Ils lui ont juste fait une rachianesthésie et elle a eu l'ablation du utérus. Donc elle est restée 8 heures au bloc opératoire. Bon, ça n'a pas été la joie parce qu'elle était consciente de ce qui se passait. Mmh. Elle avait aucune douleur, mais bon, quand ça vibrait, elle le sentait et tout, et elle entendait tout ce qui se passait. Mais quand on peut pas endormir un patient parce qu'il est âgé ou que s'il a une anesthésie générale, il risque des complications ou de ne pas se réveiller, c'est vrai que le secteur médical devrait se pencher vraiment sur continuer à ça. Parce que c'est vrai que vous réduisez les doses d'anesthésie et tout, et c'est vrai que pour le réveil du patient, pour le confort, c'est mieux, puis pour le cœur aussi. Mais c'est vrai que je tenais à témoigner ce matin que s'il y a des gens qui subissent des grosses interventions chirurgicales, hein, qu'ils n'hésitent pas à avoir l'hypnose.
À penser à l'hypnose. Thierry, merci pour ce témoignage ce matin.
Il y avait aussi une question sous-jacente à tout cela, c'était tout au début des propos de Thierry. C'est, est-ce qu'aujourd'hui l'hypnose est encadrée?
Oui et non en fait, oui et non. La France est un pays un peu curieux sur ce plan-là. Là encore, on a des différences assez considérables avec nos confrères dans plusieurs pays européens. Tout ce qui est, en quelque sorte, l'accompagnement relationnel, communicationnel, toute la dimension relationnelle avec le patient n'est pas tellement encadrée. D'ailleurs, est très peu enseigné dans les formations initiales et très peu encadré. Et ce qui fait que, par exemple, dans le monde de psy, il y a des tas de méthodes qui sont utilisées et qui ne sont pas ou vérifiées ou évaluées ni encadrées. Alors, le monde de l'hypnose...
Mais déjà, il y a la caution du médecin au départ. Il y a aussi des hypnotiseurs,
j'imagine. Le monde de l'hypnose, c'est depuis bien longtemps, et j'en fais partie, on parlait de cette question-là. Et on a créé une confédération francophone d'hypnose. On a 30 instituts aujourd'hui en France qui sont tous reliés par une charte éthique, des obligations de formation, des cadres de formation. Seuls les professionnels de santé peuvent être formés. Il y a des durées minimum pour pouvoir être formé convenablement à l'hypnose. Il y a un certificat qui existe au bout de 300 heures de formation. Donc cet encadrement, on se le fait nous-mêmes.
D'accord, mais est-ce que n'importe quel, j'ai envie de dire, psychothérapeute peut pratiquer l'hypnose aujourd'hui? Non.
Non. Aujourd'hui, il faut être professionnel de santé.
Professionnel de santé, voilà. D'accord.
Donc, c'est-à-dire, bien sûr, médecin, psychologue ou dentiste, ou mais aussi les kinés, les infirmières, les sages-femmes. On a la possibilité de les former et chacun peut pratiquer après dans son métier.
D'accord. Alors, Claude Hiro, je suis désolé, j'ai un petit peu défloré, j'ai envie de dire, la question de Gilles.
Oui, alors Gilles, on va quand même l'accueillir, parce que peut-être il fait partie du personnel de santé, il a besoin d'avoir des informations complémentaires. Vous êtes à Saint-Grégoire, bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Justement, vous vouliez savoir quelle formation peut-on suivre aujourd'hui pour pratiquer l'hypnose?
Voilà, exactement. Alors, ce que je viens d'entendre, justement, ça me révolte un petit peu, parce que ce monsieur vient de dire, seul le personnel de santé peut exercer. Moi, je connais une personne qui n'est pas du tout dans le personnel de santé, qui a exercé qu'un stage de 15 jours, qui a pignon sur rue dans un cabinet à Rennes, et qui exerce l'hypnose.
Mais vous avez raison, monsieur, et je vais vous répondre directement, et c'est pour ça que j'ai dit que nous, professionnels de santé médicaux, on crée notre propre encadrement, oui. Mais je vous ai dit aussi qu'au niveau de l'État, n'importe qui a le droit aujourd'hui de pratiquer l'hypnose en France, il n'y a pas de législation.
Oui, alors ça c'est justement un peu gros. Faudrait que ça
c'est un peu gros, oui, on est d'accord. Hein.
Donc c'est bien ce que je vous disais, n'importe quel psychothérapeute aujourd'hui peut pratiquer l'hypnose.
Ah, mais psychothérapeute ou journaliste?
Oui.
N'importe qui.
Bon, on va s'y mettre alors.
Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre législatif, il n'y a pas d'interdiction à certaines professions ou d'autorisation à d'autres. C'est pour ça que nous, en professionnel de santé, donc on crée ce cadre-là le mieux possible. Mais autour de nous, il y a des instituts qui, comme vient de dire ce monsieur-là, prétendent former quelqu'un à l'hypnose en 2 semaines et ces gens-là posent leur plaque effectivement.
Donc en gros, il faut encore légiférer sur l'hypnose.
Il faut légiférer. Il y a tout un travail à faire. Et quand un patient va rencontrer un professionnel. Enfin, quelqu'un qui prétend utiliser l'hypnose, je lui demandais qu'est-ce qu'il a comme formation, est-ce que c'est un professionnel de santé, ou est-ce qu'il a été apprendre l'hypnose, et pas se mettre dans les mains de tout et n'importe qui, bien sûr.
Alors on va terminer rapidement avec
une note positive.
Un témoignage peut-être, Véronique.
Oui, Laurence est en ligne depuis Saint-Malo, elle a arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Ça fait combien de temps aujourd'hui?
Un jour. Ça fait 8 ans.
8 ans, bravo.
C'est énorme, ouais. Et combien de séances?
Alors une séance.
Une seule?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait un travail effectivement en amont. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer par les patchs, avec les patchs, en faisant du sport, en essayant tout simplement sans rien. Ça n'a jamais fonctionné. Et je me suis décidée donc de passer par une séance d'hypnose en ayant vraiment la volonté d'arrêter. D'ailleurs, on m'a même dit, écoutez, je ne fais pas la séance si vous n'êtes pas prête. J'ai d'ailleurs fumé ma dernière cigarette avant de rentrer dans le cabinet. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais retouché une cigarette. Je n'y pense même plus.
Bon, on va terminer sur cette note positive, Laurence, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup.
Félicitations, Laurence. Claude Viro, ce sera la dernière question. Comment expliquer que l'effet de l'hypnose continue aussi longtemps après ?
Eh bien, l'effet de l'hypnose a comme objectif de permettre à quelqu'un de changer son mode de fonctionnement. Soit pendant 1 heure ou 2 heures ou 8 heures, comme on a entendu pour une chirurgie, manière durable quand il s'agit de nos propres comportements. Quelqu'un qui a par exemple des angoisses, eh bien, si l'hypnose l'aide, eh bien, ça va l'aider de manière définitive. C'est-à-dire que les angoisses sont derrière après. Comme pour cette dame-là, la cigarette est derrière dans sa vie, là-bas, quelque part, au loin.